Bienvenue à bord du vaisseau Hyper Sans Sas.
Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 8 de Cinécure. Ça y est, l'année se termine. Décembre est un mois propice au bilan, mais aussi aux cadeaux. Alors, je voulais vous remercier à tous de l'accueil que vous m'avez fait, de vos retours sur les épisodes, sur les films, de vos recommandations. C'est un vrai bonheur pour moi de partager avec vous mon expérience, mon ressenti, et de vous voir réagir à ce partage, c'est un plaisir immense. J'ai pris beaucoup de plaisir à voir tous ces films cette année, à vous sélectionner ceux que j'ai pensé les plus intéressants, et à vous en parler ici avec mes mots. J'espère que cela va durer. Longue vie à Cinécure, et longue vie à vous tous qui m'inspirez et me motivez, et sans qui ce podcast n'existerait pas. Ce mois-ci, je vais vous parler has-been, indépendance farouche, anticapitalisme paradoxal et pacifisme acharné. C'est parti. « 15 jours ailleurs, 2 weeks in another town » de Vincente Minnelli, durée 1h47. Jack Andrus, une star hollywoodienne oubliée, sort d'une cure de désintoxication après un grave accident de voiture. Il est appelé à Rome par son ancien compère, Maurice Kruger, un réalisateur tyrannique multi-oscarisé mais qui est sur une pente descendante, pour un petit rôle rémunéré 5 000 $ pour 2 semaines de travail. Jack, qui espère relancer sa carrière auprès de l'homme qui a fait de lui une star, va devoir changer son fusil d'épaule une fois sur place et faire face à ses souvenirs, qu'ils soient confortables ou bien désagréables.
When can you run the film? It's great. It's just the way you wanted it, the crew the way. Well, then you're all wrapped up. Company dismissed?
Not quite.
Why not? You're not going to believe this. I persuaded Ticino to give us 2 extra days for retakes. Boy, you should have heard him scream. Retakes. And my picture?
Bon, la première chose qu'on peut dire sur ce film, c'est que c'est un film commentaire sur Hollywood, bien évidemment, puisqu'on va suivre l'histoire de Jack Andrews, donc cette star hollywoodienne qui a manifestement un peu perdu les pédales et qui d'un seul coup va se retrouver replongée avec la possibilité d'avoir une deuxième chance pour s'en sortir et pour redevenir l'acteur qu'il était, en partant donc se réfugier à Rome pour un tournage, comme je viens de vous l'expliquer. C'est un film qui fait en plus écho au sublime The Bad and the Beautiful, qui est un film de Vincente Minnelli absolument incroyable. Si vous ne l'avez pas vu, voyez-le. Il en est question dans ce film, puisqu'il y a une scène où il est projeté, ce film. Donc ça peut toujours être sympa quand même de l'avoir vu avant. Et puis de toute façon, voyez-le, parce que c'est un excellent, excellent, excellent film. J'insiste, parce que c'est vraiment probablement un des plus beaux films que j'ai vus. C'est le même scénariste qui va travailler sur The Bad and the Beautiful et sur 2 Weeks in Another Town, ce qui donc renforce les liens entre ces deux films. Ce scénariste s'appelle Charles Schnee, il est mort d'une crise cardiaque à 46 ans. C'est aussi lui qui avait écrit Red River, La Rivière Rouge, un western incroyable de Howard Hawks dont je vous ai déjà parlé ici pour His Girl Friday. C'était dans l'épisode 5 de Cinécure. Et c'est aussi le même producteur, John Houseman, qui était aussi acteur d'ailleurs et qui a joué notamment dans The Fog de John Carpenter, le même réalisateur et le même acteur principal. Donc on a quand même une petite équipe là qu'on retrouve sur les deux films et qui fait que les deux films ont des liens très très forts. C'est aussi un des films les plus oubliés de Vincente Minnelli. Vincente Minnelli qui a réalisé entre autres An American in Paris, Un Américain à Paris, alors que c'est probablement, selon moi bien sûr, un de ses plus grands films. Il faut savoir que le film a été une catastrophe pour le studio MGM, Metro-Goldwyn-Mayer, qui a perdu avec cette histoire 3 millions. Il voulait en faire un film familial, c'était pas du tout l'idée de Vincente Minnelli, ni de Charles Schnee d'ailleurs. Et évidemment, quand ils ont vu le résultat final, ils l'ont coupé et ils l'ont charcuté sans faire appel à Minnelli. Et évidemment, le film ne ressemblait pas du tout à ce que Minnelli voulait avoir, et c'était pas non plus très convaincant pour le studio. Ce qui fonctionne bien dans le film, et ce qui fait que le film a un petit peu cet allant, hein, on va dire cette énergie, c'est vraiment le duo Kirk Douglas et Edward J. Robinson qui fonctionne à merveille. Edward J. Robinson ne devait pas tourner dans ce film. À la base, c'est Spencer Tracy, le compagnon de Katharine Hepburn. Et donc, Spencer Tracy était trop cher. Donc, on a fait appel à Edward G. Robinson, qui était un petit peu moins cher et qui, selon moi, livre une de ses plus grandes prestations. Pour la petite histoire, Edward G. Robinson a aussi remplacé Spencer Tracy une autre fois dans sa carrière. Il s'agit de Cincinnati Kid, qui est pour le coup un film que j'apprécie pas beaucoup, mais qui est quand même un film important, et pour lequel Robinson disait avoir eu un des plus beaux rôles de toute sa vie. C'est vrai que Edward G. Robinson est une des choses que je trouve très positives dans Cincinnati Kid, qui par ailleurs est un film qui me laisse un petit peu de marbre. À ce duo vient se rajouter Sid Charisse, qui joue un personnage parfaitement toxique. Et il y a notamment avec elle une scène de voiture. Je peux pas, évidemment, comme ça, c'est pas très très excitant, mais je peux pas vous en dire beaucoup plus. Cette scène est, selon moi, d'une modernité absolument incroyable. Alors, ça va devenir un running gag dans cet épisode. Je vais beaucoup parler de modernité. Et d'une manière générale, je m'aperçois en réécoutant les épisodes que je dis beaucoup des films dont je parle qui sont extraordinairement modernes. Mais c'est vrai, je me rends compte que c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Je m'aperçois que je suis souvent surpris par la modernité des films que je vous conseille, qui sont pourtant des films qui ne sont pas des films contemporains. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me touche, ou en tout cas qui a l'air de me toucher particulièrement. C'est le cas ici de cette scène et de ce film, mais surtout de cette scène qui, dans sa réalisation, n'a rien à envier aux productions contemporaines. Et puis, il y a quelque chose qui me séduit particulièrement dans ce film, et là, c'est vraiment très personnel. Tous ceux qui, comme moi, aiment la Dolce Vita vont se reconnaître. C'est l'idée même que le film se passe à Rome, 2 ans après la Dolce Vita. On voit et on vit ce qui est décrit et qui est vu dans la Dolce Vita, sauf que là, c'est en scope et en couleur, et donc, c'est forcément un peu plus excitant. Et puis, il y a cette idée séduisante que Marcello Mastroianni aurait pu croiser Kirk Douglas et qu'ils auraient pu peut-être échanger le temps d'une soirée autour d'un verre ou peut-être d'une partie fine, parce que franchement, dans la Dolce Vita, c'est un peu ce à quoi on assiste, ou peut-être d'un rendez-vous chez un intellectuel. D'ailleurs, une des dernières scènes du film Two Weeks in Another Town n'est pas sans rappeler l'un de ces rendez-vous qui a lieu dans la Dolce Vita. Je rajoute qu'il y aurait dû avoir une scène d'orgie, alors orgie au sens félinien du terme, hein, c'est-à-dire que dans la Dolce Vita, il y a, selon le scénario et selon l'époque, une scène d'orgie. Pour nous, évidemment, avec nos yeux de 2021, c'est bien mignon. Mais au sens féminin du terme, en tout cas, il devait y avoir une scène d'orgie, mais celle-ci a été supprimée par le montage du studio. En 1962, sortait en France Le jour le plus long de Daryl Zanuck, La guerre des boutons d'Yves Robert et Cartouche de Philippe de Broca. Le film est disponible en VOD sur la Cinétech pour la somme de 3 euros. Et Dieu créa la femme de Roger Vadim, durée 1h35. À Saint-Tropez, Eric Carradine, un riche entrepreneur, un poil mégalo qui rachète les parcelles des habitants à tour de bras pour pouvoir construire un casino, s'éprend de Juliette, une jeune orpheline locale, sensuelle et que l'on dit volage. En affaire avec les Tardieux, à qui il essaye en vain de racheter leur parcelle qui est la seule manquante pour son projet, il manipule Michel, le cadet de la fratrie, naïf et peu confiant, afin que celui-ci épouse Juliette, qui est renvoyée à l'orphelinat jusqu'à sa majorité, à moins d'épouser un homme. Carradine entend ainsi pouvoir voir Juliette quand bon lui semble. Juliette, quant à elle, préfère Antoine, l'aîné des Tardieux, une brute épaisse qui n'a aucune élégance. Les relations entre tous les impliqués vont se tendre quand Carradine va proposer aux frères Tardieux de devenir actionnaires et les employer.
Vous avez des pieds de marquise.
Monsieur Carradine, vous avez un culot du diable.
J'ai apporté la pomme.
Quelle pomme ?
La tentation. J'avais dit que je vous offrirais peut-être une voiture.
Vous avez une voiture pour moi ?
Oui.
Elle est là ?
Je suis venu avec.
Qu'est-ce que c'est ?
Une Simca rouge décapotable.
Où est la voiture ? Vous m'avez bien dit.
Pas encore.
Elle est jolie.
Tu auras la même. Avec cette bouche-là, tu peux avoir ce que tu veux.
Sous des aspects extrêmement complexes, l'énigme du film est en réalité assez simple. Il s'agit de triangles amoureux, sauf que là, on va dire qu'il y a plusieurs triangles. Et le personnage qui va relier tous ces triangles-là, c'est le personnage de Juliette, donc le rôle joué par Brigitte Bardot, qui est vraiment exceptionnel dans ce film, je dois le dire. Je ne m'y attendais pas. Brigitte Bardot, c'est un petit peu la roulette russe. On peut la retrouver dans certains films vraiment excellentes, dans d'autres films beaucoup moins. Alors évidemment, c'est une appréciation subjective, mais n'empêche que je trouve que dans certains films, elle est stellaire. C'est le cas ici. Elle est vraiment incroyable. Elle traverse tout le film, elle mène tout, puis elle porte le film sur ses épaules. À cette époque-là, elle a 22 ans, quoi. Et elle est dirigée dans ce film par celui qui est son mari, donc Roger Vadim. Roger Vadim, c'est un réalisateur que je connaissais pas du tout. Je l'ai découvert, entre autres, donc grâce à ce film, et puis ensuite, par le visionnage du documentaire sorti sur Arte TV, Roger Vadim, Mr. Cool. Je pense qu'il est encore disponible sur arte.tv, donc n'hésitez pas à le regarder si ça vous intéresse. C'est vraiment un personnage à part, une sorte de socialite, comme on dit maintenant, un personnage qui traînait un peu dans ce monde parisien de l'après-guerre, qui était un peu à la pointe de l'élite artistique et intellectuelle dans le monde, et qui faisait pas grand chose en fait, et puis qui un jour a décidé qu'il allait faire des films. Alors il est arrivé avec plus ou moins de brio en fonction des films, mais il a surtout mené une vie assez extraordinaire en étant marié à pas mal de très jolies femmes, qu'il a d'ailleurs amené à l'écran à plusieurs reprises, dont Brigitte Bardot donc, et qui était aussi quelqu'un qui avait une vision du monde extrêmement, alors vous allez rire, mais moderne. Et vraiment, ce film ne fait pas exception, puisqu'on y retrouve donc le personnage de Juliette, interprété par Brigitte Bardot, qui est une jeune fille qui va tenter de prendre son indépendance par tous les moyens. Et le moyen qu'elle a d'y parvenir, c'est tout simplement d'utiliser son corps et d'utiliser sa beauté. Et donc, c'est, je trouve, quelque chose qui est extrêmement actuel, et qu'en plus de ça, c'est traité relativement intelligemment. Voilà, évidemment, on est en 56, il faut recontextualiser, mais n'empêche que il y a quand même pas mal de séquences et pas mal de scènes et pas mal d'idées derrière qui sont extrêmement modernes et qui d'ailleurs ont choqué, alors bien entendu, l'Église catholique, hein, qui a tout fait pour essayer d'empêcher la sortie du film, particulièrement aux États-Unis, mais aussi la bonne société française, les bourgeois, toute cette société-là qui voyait pas d'un bon œil une femme manifester ses désirs à l'écran comme ça, et en plus les assumer et les assouvir dès que faire se pouvait. Voilà. Je pense que Vadim, de ce point de vue-là, a vraiment su capter quelque chose. Et il le fait quelques années avant la Nouvelle Vague. Alors je ne vais pas recommencer à mal parler de la Nouvelle Vague, c'est pas très intéressant, même si ça commence à devenir un running gag, mais je trouve que ce film apporte quelque chose qui va être un des piliers de la Nouvelle Vague, à savoir tourner dans des décors naturels. C'est ce qu'il fait en allant tourner à Saint-Tropez, et d'ailleurs le film sera responsable du grand succès que connaîtra Saint-Tropez les années après, parce qu'à l'époque où c'est tourné, Saint-Tropez ça n'est rien, c'est un port complètement inconnu, hein, il faut le savoir. Voilà. Donc ce film participe vraiment à faire de Saint-Tropez un endroit chic et moderne et intéressant, etc., etc. Bon, voilà. Alors c'est vrai que le film sera tourné de manière extrêmement traditionnelle, mais n'empêche, c'est tourné dans des décors naturels, et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver quelques années après avec Les 400 coups, avec À bout de souffle, etc., etc., qui sont ces films que l'on cite sans cesse pour parler de la Nouvelle Vague. Voilà. Pour la petite histoire, la relation conjugale Vadim Bardot explosera avec le tournage, puisqu'on prête à Brigitte Bardot une relation avec Jean-Louis Trintignant, dont c'est le troisième film. Et il faut quand même reconnaître à Vadim ça aussi, il a été capable d'aller chercher à la fois des acteurs établis, comme Kurt Jürgens, que le studio lui avait exigé, et mélanger avec Bardot déjà en premier lieu, et puis Trintignant et d'autres qu'on retrouve dans le film. Cette même année 56 sortait en France La traversée de Paris de Claude Autant-Lara, La fureur de vivre de Nicolas Ray et Si tous les gars du monde de Christian Jacques, autre film d'ailleurs avec Jean-Louis Trintignant. Le film est disponible gratuitement sur Plex TV avec des coupures pub néanmoins, et sinon en VOD sur Universciné pour la somme de 3 euros. Speed Racer des Sœurs Wachowski, durée 2h15. Speed Racer, un jeune homme spontané, obsédé par la course automobile et extrêmement doué, se voit offrir un partenariat avec une énorme écurie. Alors qu'il choisit de continuer de courir sous ses propres couleurs, il découvre que le Grand Prix est truqué et que tout est en fait une affaire de gros sous. Entouré de sa famille, il décide de s'allier à Racer X, un coureur masqué qui combat la corruption au sein de la course automobile pour faire respecter la loi. Ensemble, Racer X et lui vont tenter de faire tomber le système mis en place et redonner à la course ses lettres de noblesse.
Look, there is the true spirit of the golden age of racing. Benjamin Braddock, Reginald White, George Wheeler, Diamond Dave Tewkesbury and Oliver Potter. The five most powerful men in the world at the turn of the last century. For all intents and purposes, they created the modern automotive industry. But the true stroke of their genius was the invention of the WRL, the world's first racing league. Interesting that you and your father were so moved by the 43 Prix. One of the great finishes in the history of racing, right? Everyone remembers Burns and Stickleton slugging it out. But who remembers Karl Potts?
Bon, alors là, attention, film extrêmement clivant. La plupart du temps, les gens que je connais qui l'ont vu ne l'ont pas aimé et n'y reviennent pas. Donc là, ce que je suis en train de vous demander de faire, c'est de faire un effort et d'y revenir et je vais essayer de vous expliquer pourquoi je trouve que ça vaut le coup d'y revenir. La première raison pour laquelle je trouve que Speed Racer est intéressant, c'est la place qu'il occupe dans la filmographie des sœurs Wachowski. Cette filmographie, elle s'est bâtie en suivant cette temporalité. Dans les années 90, les sœurs Wachowski démarchent le studio Warner Bros. Et leur vend deux scripts. Le premier, c'est le script de Matrix, que tout le monde connaît. Et le deuxième, c'est le script d'un film qui est une sorte d'hommage au film noir dont on aurait détourné les codes et qui s'appelle Bound. Les sœurs Wachowski réussissent à convaincre le studio qu'elles vont tourner Bound et elles le font dans le but de réussir à tourner ensuite Matrix. Matrix que le studio compte confier à un réalisateur bien plus expérimenté. Bon, ensuite, je ne vous refais pas l'historique Matrix. Matrix est un carton intersidéral. En est tirée une trilogie qui fonctionne très bien. Et ensuite, donc, les sœurs Wachowski sont au pinacle de leur carrière et choisissent de se tourner vers l'adaptation d'un animé japonais qui s'appelle donc Speed Racer, un dessin animé. Personnellement, je n'ai jamais vu. Sauf qu'évidemment, elles vont le faire en y insufflant leur obsession et particulièrement leur discours anticapitaliste qu'on retrouve dans à peu près toutes leurs œuvres. Ça, c'est le premier paradoxe Wachowski et c'est une des raisons pour lesquelles j'aime ce film. C'est que les sœurs Wachowski sont toujours capables de raconter des histoires profondément anticapitalistes tout en le faisant avec des acteurs profondément capitalistes. Là, il s'agit d'un film donc, dans lequel elles vont critiquer le système capitaliste qui est quand même produit et distribué par Warner Bros., quand même une des sociétés les plus puissantes du capitalisme. Et la deuxième raison pour laquelle ce film, je trouve, est digne d'intérêt, c'est qu'en plus de ça, elles se mettent la contrainte de transformer, en tout cas c'est ce qu'elles espèrent parvenir à faire, la forme du cinéma. Je m'explique. Leur but est de réussir à créer un film qui ne répondrait pas formellement aux attentes que le spectateur se fait d'une œuvre de ce type. Pour être encore plus concret, dans le film, il n'y a quasiment pas, évidemment, c'est plus compliqué que ça, mais il n'y a quasiment pas de champ contre champ. Tout est basé sur un montage dynamique, en fondu, en enchaîné. C'est très bizarre et c'est complètement nouveau hein, en 2008, et ça continue de l'être d'ailleurs aujourd'hui. J'ai vu peu de films qui ressemblent à ça. Une énergie folle est investie dans le film pour réussir à en faire quelque chose qui ne ressemble pas à quelque chose de classique. Voilà, ça je trouve que c'est aussi digne d'intérêt. À ce titre, la première séquence, la première longue séquence d'introduction, qui dure une vingtaine de minutes, est vraiment époustouflante. Voilà, c'est quelque chose que j'ai jamais vu avant. On a 20 minutes du film qui sont dédiées à nous expliquer tout, nous introduire tous les personnages, nous expliquer tous les enjeux, pour qu'ensuite on puisse profiter de 1h55 à peu près d'action pure et dure. Sauf que dans le cas de Speed Racer, de l'action pure et dure, ça ne veut pas dire sacrifier à la beauté du film. Alors là, je sais, et j'en entends déjà sauter sur leur chaise ou dans les transports en commun, ou peu importe où vous écoutez cet épisode. Oui, moi je trouve que Speed Racer est un film qui est très beau. Et oui, je sais que c'est un film qui, physiquement, en a rebuté plus d'un. Moi je pense, c'est mon avis, et j'aimerais que vous vous fassiez le vôtre et que vous reveniez vers moi, je pense que ce film peut être comparé dans certaines de ses séquences à de l'art contemporain. Je trouve incroyable que les sœurs Wachowski aient pris autant de risques visuels pour nous raconter une histoire qui est somme toute globalement assez simple et banale. Elles auraient très bien pu faire ça comme une adaptation classique, ça aurait probablement fonctionné. Là, c'est pas le cas, le film a fait un bide monumental. Je pense que sa forme visuelle, je pense que les choix drastiques qui ont été faits ont été vraiment quelque chose qui ont rebuté les gens. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est attachant. Voilà, je trouve que c'est en tout cas c'est quelque chose qui me plaît, je trouve que c'est beau. Et en plus de ça, je suis admiratif, oui, c'est vrai, de cette recherche, de cette volonté qu'il y a eu derrière, de réussir à en faire un objet non identifié, un objet cinématique non identifié. Un OCNI, si vous permettez l'expression. Si ces deux arguments ne suffisent pas à vous convaincre, je rajoute qu'il y a John Goodman et Susan Sarandon, entre autres, qui jouent dans le film, et je finirai par vous poser la question suivante. Dans quel film trouverez-vous une course dans laquelle la voiture effectue des saltos, dans lequel John Goodman combat des ninjas et dans lequel un chimpanzé a un rôle prépondérant ? Pablo Picasso, un être par ailleurs détestable, a dit un jour quelque chose de pourtant très vrai. On met des années pour peindre comme on peignait quand on était petit, en fait, quand on avait cette créativité qui était irréfléchie, quoi. Et ben, Speed Racer, c'est à peu près une œuvre qui a cette valeur-là à mes yeux. C'est-à-dire qu'il s'agit de retourner en enfance, il s'agit d'essayer de créer quelque chose qui visuellement ressemble à ce qu'on imaginait quand on jouait avec nos jouets. Voilà. Pour moi, en fait, c'est ça, Speed Racer. Et je trouve que ce film a une spontanéité incroyable, un rythme dingue. Voilà, c'est un film que je défends régulièrement dans des discussions animées parce que c'est vrai que c'est un film clivant, comme je vous l'ai dit. J'aimerais beaucoup que vous le voyiez, que vous fassiez votre avis, que vous veniez m'en parler. Pourquoi pas sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre, @charleddy. Je ne me lasserai jamais de parler de ce film, donc foncez. un petit détail sur le tournage, comme j'aime à le faire, qui, à moi, me brise le cœur. Il paraît que sur le tournage, tous les acteurs étaient très motivés pour tourner une suite. Le cast s'entendait très bien. Et la blague, c'était bien sûr, on se retrouvera. De toute façon, l'année prochaine, on sera tous ensemble pour tourner la suite. Tout le monde y croyait dur comme fer, évidemment, les sœurs Wachowski en premier. Bon, le film a complètement bidé, il n'y a pas de suite et je pense qu'il n'y en aura pas du tout parce que c'est tellement particulier que qui va réinvestir de l'argent pour faire une suite à ce film-là, quoi. C'est trop dangereux, donc évidemment ça ne se fera pas, quoi. En 2008, sur les écrans français, on pouvait voir Bienvenue chez les Ch'tis, de et avec Danny Boone, Wall-E d'Andrew Stanton chez Pixar et Mesrin, l'instinct de mort de Jean-François Richet. Le film est disponible en VOD chez Prime Video pour la somme de 3 euros. RAS de Yves Boisset, durée 1h50. Charpentier, Marche et Dax sont trois soldats appelés pour partir en Algérie gérer les événements. Plutôt opposés à la guerre, ils sont dans un premier temps incarcérés puis finalement intègrent un groupe d'action exigeant. Alors qu'ils s'enfoncent dans le territoire en recherche de leurs opposants, le conflit interne entre leur devoir de soldat et leur idéal pacifiste s'intensifie.
Attention les fêles! Attention! Les fêles sont là!
Récupérez vos armes!
Bouquet!
Sortez le jour!
Bouquet, Luigi, arrêtez pas! Ce que nous devons!
Tire le chocan! Tire!
Boisset, c'est d'abord un cinéaste que je trouve oublié, qui aurait d'ailleurs toute sa place dans une mini-série Cinéessentiel. Si vous n'écoutez pas encore Cinéessentiel, n'hésitez pas, c'est tous les troisièmes mercredis du mois ici même. En ce moment, nous parlons de la carrière de Henri-Georges Clouzot. Boisset a été aussi objet de raillerie, puisque souvent on disait de Boisset que tout était bien, sauf ses films. Et sa filmo est pourtant, je trouve, d'une richesse inestimable, non seulement parce qu'elle réunit des acteurs de grand talent, mais aussi parce qu'elle est souvent hautement politique, sans jamais rien enlever à son efficacité, son côté nerveux sans gras. Ce qui me rappelle d'ailleurs, souvent, la carrière de Costa-Gavras, peut-être, c'est vrai, avec un peu moins de talent, parce que Costa-Gavras a vraiment le don de nous plonger émotionnellement dans des situations hautement politiques. Boisset n'y parvient pas forcément, en tout cas pas de la même manière, mais il y a quand même des très grands films dans la filmo d'Yves Boisset et RAS en fait définitivement partie. J'ai choisi d'ailleurs RAS, mais la vérité c'est que j'aurais très bien pu choisir d'autres films à lui. J'ai particulièrement aimé Le Prix du Danger avec Gérard Lanvin et Michel Piccoli et bien entendu Marie-France Pisier à laquelle je voue un culte absolu. J'aurais pu choisir L'Attentat, j'aurais pu choisir Le Juge Fayard, dit le shérif. Il y en a plein, je vais pas tous les citer, hein, il y a des grands classiques qui ont d'ailleurs généralement été oubliés. Hein. Et je trouve qu'un des grands mérites du film, donc une des raisons pour lesquelles je l'ai choisi, outre le propos antimilitariste à une époque où cela n'existait quasiment pas, ou très très peu, c'est son cast. Yves Boisset, il réussit à réunir à l'écran une série de jeunes acteurs que l'on reverra souvent par la suite et qui jouent, pour la plupart, leur premier rôle ici. Je pense à Jacques Spisser, à Jacques Weber et à Jacques Villeret, gros capital Jacques donc pour ce film, mais aussi à Jean-François Balmer. Et d'ailleurs, petite anecdote, vous savez que j'aime bien les petites anecdotes de tournage, c'est Depardieu qui devait jouer son rôle. Alors ça, je l'ai appris dans les mémoires d'Yves Boisset, qui est un bouquin que j'ai acheté au cours d'une mini-rétrospective orientée politique au cinéma Utopia à Bordeaux, dans laquelle, d'ailleurs, j'ai pu découvrir RAS. Et donc, Boisset raconte que c'est Depardieu qui devait jouer le rôle de Dax, mais la rencontre avec Boisset, et le reste du cast d'ailleurs, s'est très mal déroulé, puisque Boisset voulait s'assurer que Depardieu s'entendrait bien avec le reste de l'équipe. Il avait à cœur d'avoir une équipe qui allait être soudée à l'image des personnages à l'écran, qui le sont d'ailleurs, qui deviennent amis, qui deviennent compagnons, qui deviennent militaires, enfin bref, qui doivent partager un certain nombre de temps ensemble. Il s'imaginait, Boisset, que si le courant ne passait pas, ça allait être très compliqué sur le tournage, et bien lui en a pris, puisque Depardieu s'est pointé au rendez-vous avec sa moto, il a absolument tenu à se garer sur la terrasse du bar auquel avait rendez-vous le cast avec lui. Après ne pas y être parvenu et s'être engueulé avec le garçon de café, on imagine tout à fait la scène, hein, connaissant Depardieu. Les anecdotes qui courent sur Depardieu sont nombreuses et généralement souvent hautes en couleur. Il a fini par s'asseoir avec le reste du cast et a pratiquement les insulter, en fait. Il insulte les autres acteurs et d'ailleurs Weber et lui en viennent presque aux mains. Et l'entretien s'est évidemment par la suite très mal déroulé, Boissé ayant calmé le jeu. Et quand Boissé a annoncé à Depardieu qu'il n'allait pas jouer le rôle parce que manifestement le courant ne passait pas avec le reste du cast, ni d'ailleurs particulièrement avec lui, Depardieu l'a insulté à son tour et lui a dit « Plus tard, tu te mettras à genoux et tu me supplieras de jouer dans tes films. » Bon, Depardieu a eu raison dans le sens où il a eu une carrière immense. Par contre, Boissé n'a jamais fait jouer Depardieu et ne l'a jamais supplié de le faire. Voilà. On fait souvent le rapprochement de ce film avec « Avoir 20 ans dans les Aurès » de René Vautier. Alors, c'est un film que je n'ai pas vu, donc je ne pourrais pas trop en parler. Mais je sais que c'est à juste titre, puisque les thèmes sont très très proches. Ce sont deux films qui parlent de l'Algérie, donc de la guerre d'Algérie, ce que j'ai appelé les événements dans le résumé du film, mais qui est en fait une guerre, hein, chacun le sait. Deux films donc qui sont sortis à la même période, à peu près. Donc, deux films que je pense qu'il faut voir. Moi, donc, je vous répète, je n'ai pas vu l'autre, donc je le regarderai. J'en parlerai probablement sur mon compte Instagram. Suivez-moi, @charledy. Mais ce qu'on dit moins sur ce film, donc RAS de Yves Boissé, c'est que Kubrick s'est inspiré de ce film pour Full Metal Jacket, et notamment pour la structure du film en deux actes. Une structure qui, ici, fonctionne très bien. Pour le coup, dans Full Metal Jacket, je suis moins... Enfin, pour moi, c'est probablement un des moins bons films de Stanley Kubrick. Ça va peut-être en faire sauter quelques-uns au plafond, mais voilà, je trouve que c'est pas forcément son film le plus réussi. Mais voilà, visiblement, Kubrick se serait inspiré de RAS, et ça ne me surprend pas, parce que le film est vraiment... très bien. Une fois de plus, c'est du cinéma efficace. On ne perd pas de temps. On n'est pas en train de faire des digressions inutiles ou des explorations impossibles. On est vraiment dans, pour le coup, une exploration mentale de ce qu'est le pacifisme, le refus d'obéir, la désobéissance civile dans d'une certaine manière. L'obéissance à des valeurs. Et là, on est dans un clash entre les valeurs que tente de nous inculquer un État à un moment donné de l'histoire de France et les valeurs que tout un chacun est libre d'avoir et auxquelles il est libre d'obéir. Moi, je trouve que c'est un film très réussi. Je trouve que c'est un film qui est extrêmement efficace. Et je trouve que c'est pas un film très, très optimiste. Boissé n'est pas un cinéaste que je trouve particulièrement optimiste non plus. Je pense que si je lui donnais la parole, il me dirait qu'il regarde la société telle qu'elle l'est, ou en tout cas telle qu'elle l'était à ce moment-là. Je partage personnellement ce point de vue-là. Mais surtout, ce qui m'intéresse, pour vous et puis pour moi, en tant que cinéphile, c'est que le film est réussi. Voilà. Si en plus de ça, il vous plaît, alors c'est gagné. Le film est disponible sur Canal+, en streaming. Et cette même année 1973 sortait en France « Les aventures de Rabbi Jacob » de Gérard Rouri, « Mon nom et personne » de Tonino Valeri et « La grande bouffe » de Marco Ferreri. Et bien voilà, c'est ainsi que se termine cet épisode de Cinécure, le dernier de l'année 2021. J'espère qu'il vous a plu. Pour ma part, je suis enchanté de vous avoir proposé ces 28 films et 4 bouquins pour cette première année et j'ai hâte de remettre ça pour 2022. Si le podcast vous plaît, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et mettez 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est important pour le référencement. Vous pouvez ensuite en parler autour de vous, le cinéma, c'est quand même plus sympa quand c'est partagé. J'ai répertorié tous les films que j'ai conseillés dans tous les épisodes de Cinécure sur Letterboxd, une application bien pratique pour enregistrer les films que vous regardez. Vous m'y trouverez sous le pseudonyme de Charledy, comme sur Instagram. D'ailleurs, c'est sur Instagram que je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler de 4 films qui se marient bien aux 4 que je viens de vous proposer. Et pour la deuxième fois, ce sera sous forme de vidéo IGTV et non plus de story. Ensuite, on se retrouvera aussi le mercredi 15 décembre pour un nouvel épisode de Ciné Essentiel où je parlerai cette fois-ci avec David de Quai des Orfèvres, le 3e film de Henri-Georges Clouzot. Cinécure est un podcast qui est produit par moi et par Adrien Larousé, mon inimitable compère, producteur de talent, que je remercie pour sa patience et sa bienveillance. Il est d'autre part distribué par Vaisseau Hypersensas, que je remercie aussi pour exactement les mêmes raisons. Vous pouvez, si le cœur vous en dit, rejoindre le Discord du Vaisseau et venir échanger avec nous sur le channel de Cinécure. J'y suis le plus souvent possible et la communauté Cinécure vous y accueillera avec plaisir. Allez, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à tous. À très vite. Ciao.